C-I.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Creuse.
Vous passez sans doute devant pour aller faire les emplettes à Bourganeuf, le pôle des énergies. Ce musée raconte comment l'électricité est arrivée ici en 1886. Mais c'était quoi avant ?
Lucie de Royer-Dupré. Avant le pôle des énergies, ce bâtiment, il accueillait le musée de l'électrification de Bourganeuf, qui était un musée très technique, sur l'électricité, sur l'électrification vraiment de Bourganeuf. Comment l'électricité est arrivée, sous quelle technique, les rebondissements, etc. Et puis, je crois qu'il y avait aussi toute une partie sur l'hydroélectricité, le fonctionnement des barrages. Je sais qu'il y a eu une manufacture dans le bâtiment juste là à côté. Donc, il y avait des tapisseries d'Aubusson faites à Bourganeuf. C'est vraiment intéressant, en fait. Même si, voilà, en général, l'histoire industrielle, on peut trouver ça un peu barbant. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir comment l'histoire du pays s'imbrique dedans. Et voilà.
Marie-Hélène Pougé-Chauva. Le pôle des énergies a été inauguré en 2022. Vous voyez, il est tout neuf.
Sur cette photo en noir et blanc là que vous nous montrez, cette photo qui date de
79 exactement.
Manufacture
de tapisserie coupée. Ça a été une très grande manufacture de tapisserie d'Aubusson, hein, de la Savonnerie, qui a été créée en 1909. Bien sûr, on était estampillé Aubusson ici, mais il y avait une vraie entreprise de tapisserie internationalement connue, coupée, puisque c'est eux qui ont fait les tapis du Normandie, le grand paquebot, y compris une tapisserie dans l'Empire State Building à New York.
Pourquoi pas un musée aussi de la tapisserie ?
On ne peut pas parler à la place des élus de l'époque, mais vraisemblablement, on s'est mis à reparler. Ces événements fabuleux pour Bourganeuf sont ressortis. Et donc, les élus de l'époque ont dû se dire, c'est le moment de faire un musée de l'électrification. Tout a été refait. On a gardé les quatre murs et le toit, c'est tout.
Donc, on voit pas de, il y a pas de tapisserie cachée sous nos pattes.
Et non. Et puis, les tapisseries, elles avaient toutes été vendues. Et une grosse partie des cartons ont été donnés à la Cité internationale de la tapisserie.
Comme nous l'indique Marie-Hélène, rendez-vous à Bourganeuf pour en savoir plus sur l'histoire de l'électricité et rendez-vous à Aubusson pour connaître l'histoire de la tapisserie.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Berry.
Pose la marmite dans la bassie, oh, je la bronze tantôt.
Berrichon dans le texte.
La bassie, c'est l'ancêtre de l'évier. Bassin en ciment ou en pierre, fixé au mur, avec juste un trou pour que les eaux usées s'écoulent dans le fossé ou dans le trou devant la maison. Des fois, ça sentait mauvais. Ah, c'est qu'il n'y avait pas le tout à l'égout, ni même ben souvent l'eau courante. Hein. Sauf, je tchèque chanceux, qu'avait un puits en qu'une pompe qu'elle amenait l'eau sur la pierre à évier, comme disait ma grand-mère Lucienne. Ah, dans ce temps-là, point de litchi de vaisselle, hein. On essuyait la poêle noire en qu'un journal, en veillant à ce qu'elle reste grasse pour pas rouiller. On rinçait les marmites, mais on jetait pas l'eau. Ça faisait les yeux grasses qu'on donnait aux cochons, en que les épluchures et puis les restes du goûter. Ah, ça t'est pas le confort d'aujourd'hui. Mais on y vivait pas si mal dans nos masures du vieux Berry. Personne n'en a jamais aussi bien décrit l'intérieur que Georges Blanchard dans le poêle de marmites. Une meille, une ormoy en brisier, un plot en coûté de la bassie, une table à fauteuil en ousier, un lit coiffé d'un baldaquin, ou idiot mangé par les mythes, et tantôt noir, tantôt routien, un tout petit poêle à deux marmites. Avec deux chaises, un banc boiteux, une chaise en bois près de la cheminée, oh bah ça t'est le mobilier, pas coûteux, qu'on pouvait voir chez ma grand-mère. Chacun est faro de ce qu'il a, et les besoins ont des limites, mais c'était un luxe en ce temps-là d'avoir un poêle à deux marmites. Les mois, les années ont passé, la maison s'est ratatinée. Le petit poêle, un bouchon cassé, a suivi le train de la destinée. Ma grand-mère est morte un matin sous les ridios mangés des mythes. C'est depuis ce temps-là que c'est éteint, le pourvieux petit poêle à deux marmites.
Ici. Actu locale, musique et bonne humeur. écouter ici, la nuit, et profiter du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Paris-Île-de-France.
Oui, il est à mes côtés, Grégoire Thonat. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Première question, comment appelle-t-on un collectionneur de tickets de transport ?
Un hésitériophile. Alors moi, en l'occurrence, c'est plutôt Paris et c'est plutôt les tickets de métro.
Et elle vient d'où cette passion ?
J'étais un petit Parisien, j'ai grandi à Paris devant le métro aérien dans le 15e. J'aimais beaucoup les trains, j'avais un train électrique. Et le métro était devant moi, et puis moi c'est un monde qui me fascinait, ce monde souterrain. Et puis j'ai rencontré les gens du métro et je me suis intéressé au métro, aux objets et donc aux tickets.
Et le tout premier ticket de métro, il est face à nous, c'est lui ?
Alors, dans ma collection, oui. Et j'ai la chance d'avoir des tickets qui datent du tout début du métro. Hein. Donc il faut rappeler aux gens que le métro était inauguré dans le cadre de l'exposition universelle de 1900, le 19 juillet 1900 à 13h, soyons précis. Et là, on a un ticket de seconde et un ticket de première. Il faut rappeler aux gens qu'il y avait deux classes dans le métro jusqu'en 1991. Ouais. Et là, c'est vraiment un ticket de carnet du tout début du siècle, des années 1900.
Il n'y a pas de bande magnétique sur celui-là, hein.
Bah non, la bande magnétique, même le concepteur de la bande magnétique, je pense, n'est pas né à cette époque-là.
Il est arrivé quand ce ticket avec la bande magnétique ?
Pour Paris, il est mis en place dans les années 73, et donc la bande magnétique, bah, elle va tuer le poinçonneur, le fameux poinçonneur des Lilas.
Qui faisait des petits trous.
Qui faisait des petits trous et qui pouvait faire dans les stations importantes jusqu'à 3000, 3500 trous par jour. C'est un boulot très dur, quoi.
Votre collection, elle tient juste dans le classeur qui est face à nous ?
Oh non, j'en ai un certain nombre de classeurs. Je vous épargne le reste. Souvent, on me pose la question. Vous l'avez pas posé, mais je vais devancer. Vous en avez combien ? En fait, je m'en fous de savoir combien j'en ai. Ce qui m'intéresse, c'est un graphisme. C'est le papier. Le papier évolue au fil du temps. Pendant les guerres, vous avez ce qu'on appelle du papier de guerre. On recycle le papier. C'est pas nouveau de recycler le papier. Donc, le ticket, et ça, pour nos auditeurs, le ticket, au-delà de l'aspect collection, c'est une chose. Mais le ticket dans son évolution, fond, forme, couleur, typo, ce que vous voulez, il n'est que le reflet de l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie des Parisiens.
Fin du ticket de métro, fin de votre collection par la même occasion ?
Ouais, je vais être obligé d'aller m'ouvrir les veines. Non, alors heureusement, j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie. Puis je dis ça, sinon je vais encore être invité à des dîners de cons. Non, ce qui m'intéresse derrière, c'est l'histoire des gens, les parcours, des vies des gens, et savoir qu'une vie a basculé sur un quai de métro et l'a raconté comme Juliette Gréco, qui dans la vie a basculé pendant l'occupation et elle a pu s'échapper entre guillemets des griffes de la Gestapo grâce à un ticket de métro. Quand vous racontez ça, si je vous détaille le truc, je vais vous mettre les poils, quoi. C'est la vie, le métro, c'est la vie.
Merci Grégoire Thonat et à très vite dans le métro, pourquoi pas.
Bien sûr, moi je le prends quasiment toutes les semaines.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Affaires classées, le podcast. Nous sommes en mai 2005, un procès défraie la chronique. Un curé palois est en effet accusé de viol par un jeune séminariste. L'ecclésiastique proteste, mais l'affaire vire au scandale.
Affaires classées, un podcast ici.
Sébastien a choisi de dédier sa vie au service de Dieu. Né en 1976 dans une famille catholique très pratiquante, ce jeune palois éprouve très tôt la vocation. Et il ne s'en cache pas. L'image du prêtre incarne selon lui la perfection, une sorte d'idéal à atteindre. Pourtant, ce mercredi 13 février 2002, il va faire une croix définitive sur ses projets à cause d'un vieux et douloureux secret. Transi d'angoisse, seul, Sébastien pousse la porte du commissariat. Au fonctionnaire qui le reçoit, il glisse quelques mots. C'est pour une plainte. J'ai été violé. On le fait asseoir en attendant qu'un officier de la brigade des mineurs descende s'occuper de lui. C'est le capitaine de police Marc Rochet qui s'y colle. L'enquêteur de permanence ce matin a du métier. Mais le dossier qu'il s'apprête à ouvrir restera gravé dans sa mémoire. L'audition débute. Sébastien retrace rapidement les dates clés de sa vie. Sa naissance en Australie, l'enfance à Naï, la scolarité à Notre-Dame de Bétaram et surtout sa vocation religieuse. Élève brillant. brillant, Sébastien est en classe de seconde quand il prend attache avec le diocèse de Bayonne afin de s'informer et préparer son entrée au séminaire. Nous sommes en 1992. Sébastien rencontre Dominique Spina, un prêtre trentenaire qui le reçoit à son bureau à la paroisse de Jurançon. Un entretien dont il se souvient à la minute près. Pour attester de sa foi et de sa vocation religieuse, Sébastien devra participer à un long parcours d'intégration fait d'entretiens et d'activités collectives. Une aubaine pour le jeune homme qui découvre ainsi de nouveaux repères, de nouveaux amis. À la maison, ses parents divorcent et dorénavant, c'est chez Marie-Thérèse, sa mère, qu'il réside. Deux années durant, le père Spina va prendre de plus en plus de place dans la vie de Sébastien. Il téléphone chaque soir, se renseignant sur ses faits et gestes. Que fait-il? Qui voit-il? A-t-il des relations féminines? Une curiosité envahissante, malsaine même. Mais Sébastien voue une grande admiration pour son mentor.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Sébastien se souvient d'un pèlerinage à Rome en car au milieu d'une dizaine d'autres garçons. 10 jours durant, le jeune Palois a la fâcheuse impression que le père Spina se rapproche beaucoup de lui, beaucoup trop. Attention particulière, questions intimes intrusives, sèche remontrance quand Sébastien parle avec une fille, tout est prétexte à recommandations, voire critique de la part de celui qui s'autoproclame son accompagnateur spirituel. Sébastien étouffe, mais c'est ainsi. Il lui faut réussir son parcours de vocation, coûte que coûte. Plusieurs choses vont l'inquiéter. Un dimanche, le père Spina vient visiter Sébastien à son domicile. Il profite de la porte de sa chambre fermée à clé pour l'embrasser longuement sur les joues. Il caresse ensuite ses parties intimes avant de se ressaisir. Est-ce parce que Sébastien n'a osé le repousser ou qu'il n'a rien révélé à ses proches? Le père Spina va régulièrement reproduire ses gestes obscènes, passant des attouchements au viol. Sébastien a 17 ans. À peine, quand l'homme d'église décuple les gestes criminels sur son corps. Spina le surnomme « mon amour, mon trésor », l'enjoignant de l'appeler de même. À l'été 1994, le jeune Palois décroche haut la main son baccalauréat. Pourtant, personne n'imagine que sa joie de jeune diplômé dissimule un lourd secret. En septembre suivant, Sébastien aurait pu intégrer le séminaire, comme il le rêvait, mais son mentor le décrète encore trop jeune à son goût. Obéissant, il va donc s'inscrire en fac d'histoire, en attendant que Dominique Spina donne son feu vert. Déçu de ne pouvoir réaliser son rêve, Sébastien entre discrètement en contact avec une communauté religieuse basée à Namur, en Belgique, laquelle accepte de l'accueillir en formation. Quand il apprend cette cachotterie, le père Spina explose de colère. Il inflige à son protégé une scène de jalousie. Il fait intervenir sa mère pour le raisonner, dit-il. Furieux, Dominique Spina va tout faire pour empêcher le départ de Sébastien à Namur.
Affaire classée. Un podcast, ici Béarn Bigorre.
Le père supérieur de la congrégation belge est littéralement harcelé par Dominique Spina qui l'exhorte à refuser l'admission de Sébastien au prix d'énormes critiques. Le curé palois accuse son ex-protégé d'être indigne de la vocation, d'entretenir une relation amoureuse avec une fille, voire d'être porteur du sida. Des accusations mensongères, bien évidemment, mais pour le jeune Palois, le message est clair. Il doit renoncer à son projet et rentrer en Béarn. Où qu'il aille, le père Spina fera tout pour ruiner ses espoirs de devenir un jour prêtre. Or, Sébastien ne renonce pas. Il intègre le séminaire de Bayonne en septembre 96 et pour 2 années. Il tente, à plusieurs reprises, de se libérer de son lourd secret, mais le père supérieur l'envoie balader. Lorsqu'il révèle les viols et agressions sexuelles que Sébastien reproche à Dominique Spina, le chef du séminaire ne paraît pas surpris outre mesure. Mais le confesseur élude le problème en renvoyant Sébastien à son sort. Sébastien, ne porterais-tu pas une part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé ? Pire, Sébastien ne tourne peut-être pas rond, selon le supérieur. Mieux vaudrait qu'il consulte un psychiatre. Avec pareil fardeau, le jeune Palois n'est guère surpris d'apprendre, 2 ans plus tard, que le conseil des pères le juge inapte à rester parmi eux. Fin d'un rêve. Pour avoir dénoncé les crimes sexuels commis par son accompagnateur spirituel, le séminariste Palois est mis à la porte. Il reprend ses études d'histoire, mais il ne renonce pas à son combat pour la vérité. Sébastien tente, en 2001, d'alerter le vicaire général par écrit. Aucune réponse. À l'évêché de Bayonne, il n'y a aucune affaire Spina. Et puisque l'Église refuse de faire le ménage parmi les siens, Sébastien va suivre les conseils de sa psychothérapeute. Il dépose plainte pour viol et agression sexuelle. Une semaine plus tard, le père Spina est arrêté et placé en garde à vue. Il avoue, certes, des baisers, des attouchements sur le corps de Sébastien, mais attention, un fort sentiment amoureux les unissait, dit-il. Il n'a jamais contraint Sébastien ni abusé de son autorité.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Les explications tortueuses du père Spina ne convainquent guère le juge palois Christian Mirande en charge du dossier. La perquisition de son domicile au presbytère de l'église Saint-Jacques, qui est situé par le plus grand des hasards sous les fenêtres du juge d'instruction, a de quoi intriguer. Les policiers de la Sûreté paloise découvrent plusieurs connexions sur des sites de rencontres homosexuelles depuis son ordinateur personnel. Ils ont aussi mis la main sur de nombreuses lettres échangées entre Spina et son jeune disciple. Des missives qui témoignent d'une relation très forte, mais que chacun analyse à sa manière. Des viols et agressions sexuelles sous emprise, selon Sébastien. Une relation amoureuse, selon le curé de la paroisse Saint-Jacques. À l'issue de sa garde à vue, le père Spina est mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée. Il est laissé libre, sous contrôle judiciaire, mais il devra éviter tout contact avec les jeunes. Le lendemain, l'affaire fait les gros titres de la presse locale. Une longue instruction criminelle débute. Les policiers enquêtent au sein des aumôneries où le père Spina est passé au fil de sa carrière. Aucun parent n'évoque un quelconque soupçon de pédophilie. Quant à l'évêché de Bayonne, c'est silence dans les rangs. Le père Marshall, auquel Sébastien s'était confié lors de son passage au séminaire, oppose le secret de la confession pour refuser de répondre aux questions des policiers. Quant aux ecclésiastiques qui avaient renvoyé Sébastien du séminaire, ne leur demandez surtout pas s'il s'agissait d'une mesure de rétorsion à ses accusations contre le père Spina. Ils auraient perdu la mémoire à les écouter. L'évêque bayonnais, Mgr Moller, n'en dira pas davantage. Il dit n'avoir pas été mis au courant de cette histoire et de toute façon, des rumeurs ne font pas des preuves, dit-il. Entre perte de mémoire et réflexe protectionniste, l'Église donne la fâcheuse impression de ne rien livrer qui pourrait accabler le père Spina. Son procès aux Assises s'ouvre à Pau en mai 2005.
Affaires classées, un podcast ici Béarn Bigorre.
Un procès qui aurait pu se tenir à huis clos, loin du public et de la presse venue en nombre, vu l'âge de la victime, mineure à l'époque des faits. Or, Sébastien et son avocat, le bâtonnier Yves Darmandraille, veulent une audience publique afin que chacun sache la vérité des agissements du père Spina. La salle d'audience est comble, certes, mais ce sont surtout les amis, les paroissiens de l'accusé qui font acte de présence. Sébastien est seul. Il s'avance courageusement à la barre pour témoigner. Il livre ce lourd fardeau des années 93-94 alors qu'il n'était qu'un lycéen. Jeune homme naïf, exalté, fragilisé par un contexte familial, il a sans doute cherché auprès de ce prêtre qu'il vénérait un substitut à ce père géniteur qui le rejetait, le méprisait. Paralysé par les assauts sexuels du père Spina, Sébastien a subi l'impensable sans se défendre de celui qui incarnait, à ses yeux, un rêve, un idéal de vie. Surpris, contraint, l'adolescent misait sur son appui pour intégrer le séminaire de Bayonne. Comment dénoncer celui qui a droit de vie et de mort sur vos projets ? Dans son box, le père Spina nie catégoriquement les accusations. Il brandit son parcours exemplaire pour jeter le doute. Ordonné prêtre à 28 ans, des jeunes, l'accusé en a côtoyé des milliers au sein des paroisses et des aumôneries qu'il a dirigées. Sa rencontre avec Sébastien, c'est, selon lui, une amitié qui s'est transformée en amitié réciproque. En témoignent les lettres enflammées de son protégé. Mais n'est-ce pas lui qui les a dictées ? L'ecclésiastique concède volontiers des baisers, des attouchements, mais des viols, jamais. Souillé en son corps, sali par les mensonges de cet ex-guide spirituel, Sébastien souhaite que justice passe pour retrouver sa dignité perdue. Alors, qui ment ? Au terme de deux procès, à Pau en 2005, puis à Tarbes un an plus tard, c'est le prêtre qui a franchi la ligne jaune. Pour ses crimes diaboliques, Dominique Spina écope de 5 années de prison, dont une assortie d'un sursis. 2 décennies plus tard, l'ex-prêtre violeur est pardonné. À l'été 2025, il est promu chancelier du diocèse de Toulouse.
Affaires classées. Un podcast ici.
Une croix sur le passé, c'était le retour de cette affaire extrêmement médiatique, extrêmement vive à l'époque, en 2005. Je vous retrouve dans un prochain numéro d'Affaires classées et à l'occasion de ce podcast, nous irons prendre l'air du côté de Cibourg à la rencontre d'un musicien né en 1875, Maurice Ravel, l'auteur du célèbre boléro. Pourquoi ? Vous le saurez dans ce prochain rendez-vous. À bientôt.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici mène.
Le circuit Bugatti, lieu mythique et terrain de jeu parfait pour l'événement qui anime chaque année la fin d'août en Sarthe, j'ai testé pour vous les 24 heures vélo Skoda. 16e édition, sportifs, entreprises, associations, bandes d'amis ou même solitaires un peu fous, les 3200 coureurs sont tous là. Parmi eux, notre équipe ici mène, radio officielle de l'événement et ses 8 coureurs. Marie, Prune, Grégory, Gaël, Axel, Fabien et moi-même, ainsi que Julien, auditeur vainqueur du concours. Après avoir installé notre campement dès le vendredi dans le camping du Hou, direction le box 26 dans les paddocks. samedi matin. Quelques tours de reconnaissance, un défilé de vélos en tout genre pour la matinale Maine Libre, un briefing et un repas partagé tous ensemble au restaurant Le Paddock à quelques heures du départ. C'est Julien, l'auditeur vainqueur du concours qui va se mettre en place sur la ligne droite. Un départ, simplement, le cycliste doit courir vers le vélo. Dossard 8006, toutes les conditions sont réunies pour que le départ soit parfait. Ça y est, l'ambiance est complètement folle. Heure après heure, l'équipe d'Issimène se relaie. J'entame le mien à 22h sur un vieux vélo Bianchi vert collector que m'a gentiment prêté Gaël de l'équipe technique. Et la nuit, je peux vous dire que l'atmosphère est vraiment spéciale. À certains endroits, seul le bruit des roues se fait entendre. Surtout celle du peloton de tête qui file à toute allure tel un essaim d'abeilles et que vous avez intérêt de laisser passer si vous ne voulez pas finir sur les vibreurs. Après mon deuxième relais à 6h du matin sous un lever du jour magique, je m'apprête à m'élancer à 14h pour l'arrivée. Il fait chaud, mais l'énergie est là, le soutien est immense, les tribunaux sont remplis, les supporters amassés le long de la ligne droite et de la redoutable montée du Dunlop pour nous donner du courage. Après plusieurs tours sous la chaleur, je regarde ma montre, il est 15h, il faut tout donner pour l'arrivée. Alors, je pédale à fond, je bois toute mon eau, je passe la ligne droite, sauf que j'aperçois une pancarte qui annonce « Encore un tour ». Coup dur, j'avais rien compris. Mais impossible de lâcher avec une telle ambiance et un tel soutien. Donc on y retourne. Et ça y est, cette fois, c'est la bonne. Après 24 heures de course et 177 tours pour Issimène, on a déjà l'impression que tout ça est passé trop vite. Peu importe le podium, on retient les sourires, la fête et l'entraide. Une vraie aventure humaine qui vous fait dépasser vos limites et qui vous offre un vrai moment différent avec vos collègues. Alors, pour toutes ces raisons, on peut le dire, les 24 heures vélo, c'est testé et approuvé par Issimène.
Ici. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We're living a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's
fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Eh bien, disais à toutis, mais le mercat de l'Uni ou le mercat des rebelles, mais en gascogne toulousano, c'est prononcé les marcat avec un A. Marca. En gascogne toulousaine, bah, du côté, par exemple, de l'île des Baches, c'est l'île Jourdain, pour parler du marché, vous prononcez les marcat. Alors, mais, il y a des mercats, ça, bien, à Toulouse, le plus connu, certainement, le marché Victor Hugo, un lieu emblématique de la ville rose. Là-bas, certains Toulousains achètent auprès de leur boucher charcutier des cansalades. Alors, mais, une questionnette au Kézako, là, la cansalade.
Ce serait pas du jambon?
Pas exactement. La cansalade, c'est de la poitrine de porc salé. Ouais. Cansalado, cansalado. Donc, moi, ne pas confondre, attention, avec car salado. La car salado, c'est littéralement la chair salée, donc la charcuterie. Alors, en ce moment, vous êtes nombreux à acheter, surtout, ben, des razines ou d'arrazim. Solide, bien entendu, il s'agit du
raisin.
Du raisin. Ouais. Une précision sur le mot razine qui désigne, et lingo nostro, aussi bien le fruit de la vigne, comme en français, que la grappe elle-même.
Et comment on dit alors, je mange du raisin?
Mais vous allez le dire, mangi des razines.
Mangi des razines.
Fort plat. Ou minja razim. En revanche, manja ou minja urazine signifie manger une grappe de raisin, pas juste un raisin. Al mercat podes crumpatabe des pumos. Au marché, vous pouvez acheter également, en ce moment, quoi, ben, des pumos.
Des pommes.
Des pommes, manger des pommes.
Belles, ouais.
Mais oui. Des persets ou des persegos. Il y en a encore, j'avais trouvé quelques-unes. Des pêches. Des pêches. Des fragustos, quejaco. Alors ça, c'est pas évident, des fragustes, des framboises, oh, et même des myrtilles, c'est très très bon, d'abajous ou abajous, ça dépend de la prononciation. Buono fine semana a tutis.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Gascogne.
Bonjour, donc je suis Jean-Luc Perrin, j'habite à la commune de Levignon. Je suis agriculteur et musicien de musique traditionnelle.
Cette passion des musiques traditionnelles, elle est venue comment?
Elle est arrivée un peu sur le tard, après pas mal d'années de musique conventionnelle, banda, ça fait du coin, quoi. C'est vrai que j'écoutais beaucoup Nadao, j'aimais bien ses sons, ses bruits, ses instruments bizarres. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ces instruments étaient bien de notre région. Et puis il y avait des cours debout de ce type d'instrument-là, qui était à proximité. Je me suis dit, allez hop, on tente, et puis voilà. Je joue à Tradalai, de la cornemuse, à fait de la boue. Je jouais aussi de la clarinette, de la flûte.
Quel est votre instrument préféré?
La boue.
Pourquoi?
C'est assez typique comme instrument, ça a un doigté assez simple, mais peu commun. C'est un son que j'aime bien. Par rapport aux autres cornemuses, c'est une cornemuse qui est beaucoup plus simple. Le bourdon n'est pas séparé de la gamme, en quelque sorte. Tout se fait sur le même morceau de bois, parce qu'autrefois, c'était tout simplement un morceau de bois dans lequel on faisait des trous et qui faisait du bruit, et puis voilà. Moi, la musique, en fait, m'est venue par mes parents, hein, qui m'ont mis dans une école de musique, tout simplement parce que j'avais un oncle qui, lui, était musicien, et donc il fallait aussi que je fasse de la musique, puisque c'était une discipline comme une autre, qui était plutôt bien, individuelle et collective. Donc j'ai grandi avec un saxophone dans les mains, comment faire pour ma communion, ma première communion, ah, hein, oui. C'était un bel événement. Et puis ça a duré jusqu'à presque mes 30 ans, quand ma vie familiale s'est bien complétée et me laissait plus trop le temps dans les bandas.
Est-ce qu'il y a quand même un métier, vous avez rêvé de faire et que vous n'avez jamais fait?
Waouh! Quand j'étais gamin, je voulais être pétrolier, mais alors je sais pas pourquoi.
Ah bon?
Musicien, ça aurait pas fait rêver mes parents, hein, comme beaucoup de parents, alors que maintenant, musicien, c'est une belle profession, bien encadrée. Je dis à tous les parents, quand votre enfant veut être musicien, laissez-le faire. De toute façon, on est en carence de professeurs de musique. C'est une très belle profession. Notre type de bal, c'est souvent des danses collectives, des danses simples. Et il faut que les personnes qui viennent voir se laissent prendre la main par d'autres personnes, par des danseurs. C'est vrai que tout le monde apprécie, ils se disent, mais punaise, c'est pas si mal. Hein. De fil en aiguille, mais ils se prennent au jeu, ils aiment bien notre musique, puis la mayonnaise monte, ils dansent, ils chantent, et on fait, ouais, finalement, de belles soirées, c'est cool.
Jean-Luc Perrin, avant de se quitter, un petit défi, ça vous dit?
Oui, dites-moi.
Ben, le nom de la radio qui vous a tendu le micro, là, aujourd'hui, c'est qui?
Ah, ben, ici Gascogne.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
son te mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Io so che tu sei qui con me.
Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Berry.
Aujourd'hui, je suis au Blanc, je suis à l'écomusée de la Brenne qui se trouve au château Nayac. Mais avant ce château, eh bien, il a eu différentes vies. C'était quoi avant? Vous allez le savoir maintenant.
ICI Berry, c'était quoi avant?
C'était quoi avant?
Marco de Rocco mène l'enquête.
C'était quoi avant?
Et pour vous présenter ce que c'était avant, je suis avec Juliette Moulin. Elle est agent à l'écomusée de la Brenne. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors avant, c'était quoi ici?
Alors ici avant, il faut déjà se mettre dans le contexte. Le musée, l'écomusée de la Brenne est situé dans le château Nayac. Un cadre historique exceptionnel. Avec deux donjons qui nous accueillent et qui ont été construits au XIIe siècle, reliés ensemble au XVIIIe siècle par un corps de logis. Ce château, il a été fondé par la famille de Nayac, qui a vécu pendant près de 300 ans, du XIIe au XVe siècle. Et puis ce château, il est passé de main en main, de propriétaire en propriétaire. Et puis, pendant toute cette période, on est à quelques pas seulement du Poitou. Au château Nayac, on se trouve en Berry. Et il se trouve qu'entre le Berry et le Poitou, il y a un écart phénoménale entre l'impôt sur le sel qui s'appelle la gabelle, qui est très élevée en Berry mais moindre en Poitou. Donc les Berrichons allaient chercher du sel illégalement en Poitou et le ramenaient en Berry. Mais quand ils se faisaient attraper, ils se faisaient enfermer dans l'un des donjons du château qui servait de prison. Encore aujourd'hui, on voit des graffitis qui montrent les vestiges des prisonniers enfermés dans cette tour.
C'était quoi avant ?
Avec Ici Berry.
Et puis, à la Révolution française, on met dehors les seigneurs, on ne veut plus de pouvoir seigneurial, on ne veut plus non plus du pouvoir de l'Église, on veut se détacher de tout ça. Le château sert de tribunal révolutionnaire, on va y juger les seigneurs, on va y juger le pouvoir clérical. Et puis, ça devient ensuite un commissariat, ça devient la mairie de la ville haute, et puis, au tout début du XXe siècle, ça devient une école de garçons jusque dans les années 1960. Une école de garçons qui va voir passer des générations et des générations d'enfants. Et encore aujourd'hui, on a des personnes qui viennent nous voir en nous disant « Mon père était à l'école dans votre château, ça me fait plaisir de revenir, de revoir cet endroit. » Donc voilà, plusieurs vies pour ce château.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Pays d'Auvergne.
Me voilà devant le gymnase Honoré et Jean Fleury. Quartier Coubertin, quoi. Alors, il y a les gars de la ville là qui sont en train de nettoyer tout ça. Les rues. Bon, je vais aller les embêter un petit peu. Peut-être même essayer de conduire, aller savoir. Sur un malentendu. Bonjour, je voulais savoir si je peux monter avec vous pour voir comment ça marche, votre petite machine.
On n'a vraiment pas le doigt.
Juste un petit tour.
Si vous voulez. Oui, ok, d'accord.
Merci. Le volant est à droite.
Oui. Quand on n'est pas habitué, ça fait drôle la première fois, en fait.
Il faudrait aller conduire en Angleterre.
Oui.
Comment ça marche, cette affaire ?
C'est un joystick, c'est-à-dire qu'on fait descendre le joystick, les balais descendent, la machine démarre, on passe la vitesse 1, et puis voilà.
Alors, les balais nettoient, donc ça envoie de l'eau et tout.
Ça envoie de l'eau et puis après, ça ramasse toute la merde, si on peut dire comme ça. Ouais.
Voilà. Et ça la met où, toute la merde ?
Ça la met dans la... Il y a une cuve à l'intérieur, ça la met tout à l'intérieur. Et après, quand on fait de matinée, on va vider.
Vous la videz où ?
On la vide au jardin, le coq. Il y a une benne affrétée exprès pour...
D'accord.
Voilà.
Vous êtes en train de faire un gros bouchon.
Mais c'est le service public. Mais après, c'est les premiers à être contents quand c'est propre.
Je peux conduire ?
Non.
Eh bien, il y a une autre petite voiturette. Tiens, on va aller le voir.
Bonjour.
Bonjour. Ah, c'est pas la même que celle de Jocelyn ?
Non, parce que lui, c'est une balayeuse et nous, c'est une labeuse. Et il passe derrière nous.
Ah, ça y est, j'ai compris le truc. Je peux conduire ?
Ah non, là, je peux pas, là.
Il y a un degré de conducteur. Il y a des conducteurs, ils conduisent les balayeuses et les autres, ils conduisent les laveuses.
Oui, parce que là, il faut passer un cassette. Parce que pour une balayeuse, il faut avoir le poids lourd et voilà.
Bon, Fabrice, il paraît que c'est vous le rigolo de la bande.
Peut-être. Vaut mieux rire au boulot que ça la gueule.
Moi, quand on a un Karcher comme ça dans les mains, on n'a pas envie parfois de donner un petit coup de Karcher de temps en temps, de faire des blagues, quoi.
On n'a pas trop le temps.
Bon, une petite blague vite fait sur un passant. Je peux essayer ?
Non.
Oh, non. J'ai essayé de conduire, mais personne ne veut me prêter son matériel.
Non, c'est interdit.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Shape of guns, while every mother is
ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Adichat et Mourane Aimé.
Les mots d'oc.
Les mots d'oc.
Adichat, Diego et Lou.
Adieu.
Oui, que ben parler de l'expression des mourants et mecs. En français, qui veut dire en rester sans voix. Aujourd'hui, on va parler de l'expression des mourants et mecs. En français, ça veut dire en rester sans voix.
Qui peut être utilisé dans plein de situations. Par exemple, quand on joue ou qu'on ne comprend même pas ce qu'au carré. On peut l'utiliser dans plein de situations. Par exemple, quand on est choqué ou quand on ne comprend pas quelque chose.
Nous avons quand même un exemple. Par exemple, quand il y a eu à but la finale PSG contre l'Inter Milan. Quand on a vu le score, qui me suit des mourats de mecs. Par exemple, quand j'ai vu la finale PSG contre Inter Milan, quand j'ai vu le score,
5-0.
Je suis restée sans voix. 5-0.
Tu que t'arrives des mourats mecs?
À la radio, qui ben, on zite des mourats mecs.
Qui c'est que
qui parle R. Et tu? Qui parle R ou non?
Her.
Je t'aime. Merci, sœur.
La plaisir. Adichat.
Adichat.
Les mots d'oc.
Les mots d'oc.
À retrouver en podcast sur l'appli Ici.
Ici, la nuit. Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Isère.
Révolutionner un domaine, ça tient à pas grand chose. Et le destin de l'Isérois dont on va parler en est peut-être le meilleur exemple.
Nom de Dieu.
Adolphe Pégou vient au monde le 13 juin 1889 à Montferrat, à côté du lac de Paladru, dans une famille d'agriculteurs.
Paysans, c'est dégueulasse.
Mais labourer des champs, s'occuper des semailles, c'est pas le projet pour Adolphe. Dès qu'il a 18 ans, bye bye la ferme, bonjour la grande muette, il s'engage dans l'armée et c'est là qu'il va faire une découverte qui va changer sa vie, le pilotage aérien. Revenu à la vie civile, Adolphe Pégou ne chôme pas. En moins d'un mois, il passe du statut de débutant à l'obtention du brevet de pilote.
Vous avez fait à 4G un piqué inversé avec un MiG-28.
D'ailleurs, un mois, c'est encore le temps qu'il lui faudra pour être embauché comme pilote d'essai par Louis Blériot, l'une des références de cet univers à l'époque.
Waouh ! Tout le monde se calme !
Mais Adolphe ne va pas s'arrêter là. C'est un enchaînement de premières qui va faire sa légende. Parce que le 19 août 1913, première, il est le premier pilote à sauter en parachute.
Hé hey Adolphe, on pensait t'attacher un gros drap dans le dos pour que tu sautes d'un avion qui pourtant fonctionne très bien en plein vol. Qu'est-ce que t'en penses?
Et alors que la descente se fait tranquillement, il observe son avion qui descend tout seul. Sans personne aux commandes, Pégou voit son appareil faire des figures qu'il n'a jamais vues de sa vie. Sa première pensée, c'est de se dire
« C'est de toute beauté !»
Et la seconde, mais des manœuvres comme ça, ça pourrait permettre à un pilote de se sortir de situations désespérées. Une réflexion qu'il va mettre en application un mois plus tard, c'est décidément une constante, en réalisant le premier vol tête en bas de l'histoire, 400 mètres la margoulette inversée, et devant son patron Louis Blériot.
Quelle histoire ça aussi.
Le 21 septembre 1913, moins d'un mois après cette performance, le bougre accélère. Adolphe Pégou réalise cette fois tout un programme de figures acrobatiques qui se termine par le désormais célèbre looping.
Attends que je t'explique mon idée, enfin.
Adolphe Pégou est-il le premier à l'avoir réalisé? Les historiens n'arrivent pas à trancher entre lui et le russe Piotr Nesterov. Mais ça n'empêchera pas la légende de l'Isérois de naître à ce moment.
Impeccable, non?
Toute la presse relate sa démonstration. Il est demandé de partout. En Europe, en Russie, même en Allemagne, où on est normalement pas très fan des Français à l'époque. Cette star de la voltige se produit devant parfois des dizaines de milliers de personnes. Et alors que les États-Unis réclament aussi de voir Adolphe dans leurs cieux, la Première Guerre mondiale éclate. Adolphe Pégou est affecté au 2e groupe d'aviation de Reims et rapidement, le professionnel des acrobaties aériennes utilise son savoir-faire pour s'imposer dans les airs. Premier pilote à remporter 5 combats aériens de l'histoire, Adolphe Pégou devient donc le premier as de l'histoire de l'armée française.
Il est verboten aussi.
Pégou, pionnier, jusqu'au bout. Sa légende prendra fin le 31 août 1915. Il rencontre dans le ciel Otto Kandulski, l'un de ses anciens élèves et pilotes allemands, là-bas dans les airs, pas loin de Belfort. L'aviateur germain et son mitrailleur lui rendront hommage quelques jours plus tard en déposant une couronne de fleurs ornée de l'inscription « À Pégou, mort en héros pour sa patrie ». Ses inventions ne furent pas suffisantes pour lui sauver la vie. Adolphe Pégou, le pionnier de la voltige aérienne, est un Isérois, illustre Isérois.
Ici.
Quand j'aurai fait le tour du monde,
qu'est-ce qu'il me restera?
Je
sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux, à quel point les gens me mentent. Si je choisis mes vêtements un peu mieux, je sais pas vraiment si je suis jeune ou trop vieux, à quel point mes proches me manquent, si la tristesse rend les gens plus curieux. Quand j'aurai fait le tour, je sais pas vraiment si je suis sage ou trop fou, si j'ai toujours les mêmes rêves, à quel point il faut que j'abrège mes rendez-vous. Je sais plus vraiment si je sais rien ou je sais tout, si je parle toujours des mêmes thèmes, à quel point quand je dis je t'aime, je surjoue. Comme j'aurais fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera si ce monde éphémère s'effondre?